Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Évangile selon Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Seigneur, quel privilège de connaître un Dieu tel que toi. Quel privilège de pouvoir dire que par ta grâce nous sommes sauvés. Mais quel privilège aussi de savoir que toi, tu ne changes pas, que tu es toujours le même, que tu es à nos côtés et que tu es prêt dans toutes les circonstances que nous pouvons traverser à nous accorder ton secours, cet appui précieux, ta force à notre disposition par l'action puissante de ton esprit. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs ici présents et moi-même en nous accordant ton onction maintenant afin que ta parole reste gravée dans nos cœurs. Nous voulons compter sur ta grâce comme nous voulons le faire tous les jours de notre vie, et nous te louons pour ce que tu es, pour ce que tu fais, et pour toutes les merveilles qui sont accomplies par ta main forte et puissante. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Le titre de mon message ce matin est très simple, c'est « La solution pour un cœur troublé ». Je ne sais pas si c'est le cas de quelqu'un ce matin, mais il est fort possible que quelqu'un connaisse dans son cœur un certain trouble à cause de certaines circonstances qui sont pénibles, difficiles à vivre. Mais j'aimerais que nous regardions à celui qui est pour nous un exemple, un modèle, même dans des circonstances qui sont tellement douloureuses que je crois pouvoir dire ce matin qu'aucun d'entre nous ne connaîtra jamais ce que notre cher Sauveur et notre Maître a connu. Les heures sombres sont venues dans le cœur du Seigneur Jésus et juste avant d'être trahi, avant d'être frappé, avant d'être torturé et puis finalement crucifié, il a prononcé pourtant des paroles qui sont une source de consolation et une source de bénédiction. Jésus, pour qui les disciples avaient tout renoncé, tout rejeté, est là maintenant en train de leur annoncer quelque chose qui est difficile à accepter dans un premier temps. Il leur dit qu'il va les quitter, il leur dit qu'il va aller rejoindre son Père, et en même temps, il place dans leur cœur des paroles qui sont capables d'amener une consolation et une paix ineffables. C'est vrai que les circonstances que les disciples sont en train de traverser sont particulièrement difficiles, car ils savent qu'ils vont être livrés à eux-mêmes. Et après que Jésus ait prononcé les paroles annonçant sa mort, ils pouvaient être plongés dans un chaos et je dirais aussi dans une grande tristesse et dans une grande peine. Mais le Seigneur Jésus est en train de leur dire que le fait qu'ils partent n'est pas pour eux une excuse pour sombrer dans le découragement, parce qu'il s'en va, mais en même temps, il leur annonce que tous les jours, il sera avec eux, quelles que soient les détresses qu'ils vont traverser. Vous savez aussi bien que moi que Jésus, au préalable, dans un autre discours, avait dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, eh bien, l'Esprit Saint ne pourra pas venir. » Et il annonce que lorsque le Saint-Esprit viendra, alors la présence de Christ sera encore plus réelle qu'au préalable. En fait, jusque-là, Jésus était avec les disciples. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu et qu'il a rempli les cœurs de ceux qui croyaient en lui, non seulement Jésus était avec eux, mais il était en eux. Et c'est la raison pour laquelle Jésus profite de cette occasion pour leur apporter des paroles qui, pour tous les temps, sont des paroles qui sont capables de donner au cœur de tous les croyants un dynamisme, une force et également une puissance qui nous permet d'aller jusqu'au bout de notre course en nous appuyant sur son bras fort et puissant. Jésus est le vrai consolateur. Tel est Jésus, pleinement divin et cependant totalement humain, à la veille d'un débordement d'angoisse, littéralement l'expérience la plus horrible que aucun homme ne connaîtra jamais ici-bas sur la terre. Pourtant, comme déjà j'ai eu l'occasion de le dire dimanche dernier, en face de cette terrible perspective, il est totalement oublié de lui-même et totalement absorbé par les besoins du cœur de ceux qui sont à côté de lui, ces 11 disciples qui sont plongés dans l'angoisse, qui sont plongés dans l'incompréhension, qui se demandent ce qui va leur arriver. La raison en est que jusque-là, Jésus était pour eux le Messie, mais la vision qu'ils avaient du Messie, c'était la vision d'un conquérant, de quelqu'un qui allait écraser l'ennemi et les Romains qui dominaient sur le peuple d'Israël. C'était la vision d'un souverain tout-puissant qui était capable de faire des miracles, d'accomplir des prodiges, d'accomplir des choses extraordinaires. Mais maintenant, ils sont en face de quelqu'un qui leur annonce il va mourir. Comment concilier cette assurance dans leur cœur qu'il est le Messie tout-puissant avec cette vision qu'ils ont d'un puissant conquérant capable de faire des choses extraordinaires et l'annonce de sa mort? Comment concilier cela? Nous pouvons comprendre qu'ils sont dans la perplexité, qu'ils sont troublés, agités, qu'ils ont besoin de réconfort. Mais la réponse à cet état dans lequel ils se trouvent, c'est une confiance absolue en celui qui est à côté d'eux encore et qui leur parle avec assurance en leur disant que votre cœur ne se trouble point. J'aimerais m'arrêter sur cette expression dans un premier temps. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Verbe dont le temps évoque une action continue. En fait, on pourrait traduire de la manière suivante, cessez de laisser vos cœurs se troubler. Je m'adresse ici à quelqu'un parmi nous qui peut, à cause de certains faits que l'on ne peut pas nier, que l'on ne peut pas rejeter comme n'ayant aucune valeur, je me redresse à cette personne pour lui dire que la solution, dans le moment où on est le plus troublé, c'est de faire confiance absolue, mais d'une manière enfantine peut-être, mais avec une pleine conviction à celui qui ne peut jamais nous décevoir et qui a le pouvoir de changer toutes les circonstances les plus négatives en moyen de bénédiction pour chacune de nos vies. Je rappelle encore ici ce matin un verset de l'Écriture que j'aime par prédilection, j'aime toute la parole de Dieu, mais ce verset a été si souvent pour moi un moyen de réconfort que je voudrais vous le répéter parce que je sais que vous le connaissez bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je sais que lorsqu'on est dans le marasme, je sais que lorsque l'on est dans une situation critique, je sais que lorsque l'on est face à une opposition terrible, eh bien, c'est difficile de se rappeler que Dieu peut faire tout concourir à notre bien. Cependant, la réalité, elle est là. Et c'est pourquoi Jésus nous dit très simplement aux uns et aux autres que votre cœur ne se trouble point. Les disciples qui avaient cette vision que j'ai décrite tout à l'heure d'un vainqueur, d'un conquérant, d'un super-héros, eh bien, et qui ont été d'ailleurs alimentés quelque peu dans cette pensée lorsque Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d'un ânon et que la foule s'est écriée « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'était une marche de triomphe et les disciples à ce moment-là ont dû être fortifiés quelque peu dans cette vision qu'ils avaient du Messie. Et c'est la raison pour laquelle l'annonce qui vient tout de suite après, parce que c'est comme cela que ça s'est passé, eh bien, est comme une douche froide. Et ils peuvent être effectivement complètement désemparés. Cependant, même au moment où Jésus a connu ce triomphe à l'entrée de la ville de Jérusalem, tout de suite après, au chapitre 12 de l'évangile de Jean, et à partir du verset 23, il annonce déjà qu'il allait subir la croix et qu'il allait mourir pour le rachat de l'humanité. Mais eux, à ce moment-là, quelles sont les questions qu'ils se posent? Que va-t-il leur arriver? Ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Et voici que ce Seigneur, en qui ils avaient une pleine confiance, va maintenant les abandonner. Que vont-ils devenir en face de la haine de tous ceux qui sont ennemis de Jésus et par conséquent, ennemis aussi de ceux qui s'attachent à ses pas, de ceux qui veulent le suivre fidèlement? Toutefois, leur amour pour lui reste intact et le Seigneur, lui, ressent dans leur cœur la souffrance qu'ils peuvent avoir au fond d'eux-mêmes. Jésus connaît la souffrance de leur cœur, mais eux ne connaissent pas la souffrance qui est dans son cœur. Jésus sait effectivement ce qui se passe en eux, et c'est la raison pour laquelle il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous savez, mes frères et sœurs, dans les moments les plus difficiles, nous avons besoin de nous rappeler de certains versets qui, dans la parole de Dieu, sont placés par le Saint-Esprit afin de nous encourager. En voici un que je voudrais vous citer et qui se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 63 et au verset 9. Voici ce que nous trouvons et pour moi c'est un grand réconfort. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. C'est le prophète Ésaïe qui parle de cette manière-là au sujet du peuple d'Israël. Et il affirme, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Je voudrais vous faire part d'un autre verset qui se trouve aussi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61 cette fois, et au verset 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et dans un autre passage, toujours de ce livre du prophète Ésaïe, cette fois au chapitre 50 et au verset 4, il est dit ceci, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Mon frère, ma sœur, dans la situation où tu peux te trouver, dans la perplexité où tu peux être, dans les moments difficiles auxquels tu es confronté, la parole du Seigneur reste et demeure le rocher sûr sur lequel nous pouvons nous appuyer, parce qu'il est écrit dans la Bible que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est la raison pour laquelle nous pouvons toujours faire confiance à notre Dieu, d'autant plus que nous pouvons toujours compter sur sa présence. Au verset 1, il est dit « Croyez en Dieu, croyez en moi » et il ajoute « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » J'aimerais attirer votre attention sur cette expression « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Il y a ici quelqu'un au milieu de nous dont j'ai fait connaissance depuis que je suis arrivé, qui connaît certainement beaucoup mieux que moi le grec. Et je ne voudrais pas dire d'absurdité, mais il y a en grec des expressions qui peuvent avoir une forme impérative ou une forme indicative. Je vais m'expliquer. Il y a ici quelque chose qui peut être compris dans le sens d'une parole prononcée d'une manière impérative. Croyez en Dieu, croyez en moi, un peu comme si c'était un ordre. Mais ça peut aussi être interprété d'une manière différente, c'est-à-dire comme une expression indicative. Vous croyez en Dieu que vous ne voyez pas, alors croyez aussi en moi. Indicatif, vous croyez en Dieu, vous croyez en moi. Mais en fait, on peut faire un mélange de ces deux choses. Et c'est comme si Dieu, si Jésus disait, si vous croyez en Dieu que vous ne voyez pas, croyez donc en moi, parce que les paroles qu'il prononce, elles sont certaines. On peut donc paraphraser de cette manière-là, et votre foi ne doit pas faiblir sous prétexte que vous ne me verrez plus. Pourquoi ? Parce que je continuerai d'être avec vous. Et il y a un verset de l'Écriture que vous connaissez aussi bien que moi et qui affirme la chose suivante. Je serai avec toi dans la détresse. Vous connaissez ce verset. Il est au psaume 91 et au verset 15. Dans le psaume 46 et au verset 2, il est dit « Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et dans le psaume 102, au verset 3, il est dit « Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse ». Vous voyez, mes frères et sœurs, dans les moments de détresse, il faut penser à cela. Jésus ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas. Il est avec nous. Je vais citer un exemple tiré de la parole de Dieu. Quelle grande détresse a dû être dans un premier temps le partage de ces trois amis de Daniel qui, à cause de leur foi, de leur conviction, de leur certitude, que Dieu était le seul que l'on devait louer, adorer, honorer, respecter, glorifier, eh bien, on était jetés, comme vous le savez, dans la fournaise. Et ceux qui ont jeté les trois amis de Daniel dans la fournaise, eux, ont été atteints par les flammes et sont morts. Mais regardez ce que dit la Bible. Quand le roi a observé ce qui se passait dans la fournaise, il a remarqué qu'il y avait ces trois hommes que nous venons de chanter, mais un autre personnage qui avait un visage d'ange, qui était différent, mais qui était là. Et que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que même pas les vêtements ont été atteints par la puissance du feu. Savez-vous ce qui a brûlé? Juste les liens avec lesquels les hommes les avaient attachés, eux ont cramé complètement, mais eux ont été préservés. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec eux dans la détresse. Je veux te dire, mon frère, le Seigneur est avec toi. Je veux te rappeler, ma sœur, le Seigneur est avec toi. Alors ne crains pas, ne sois plus troublé. Réagis maintenant comme un enfant pourrait le faire en disant, mais alors s'il est avec moi, il ne permettra pas que cette situation me terrasse. Oh, bien au contraire, il y a une leçon, un enseignement, un but que le Seigneur poursuit. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, à penser à ceci. Chaque fois que nous nous trouvons dans une situation particulièrement douloureuse, et c'est certainement le cas de beaucoup parmi nous ce matin, chaque fois, nous devons penser à dire au Seigneur, quelle est la leçon que tu veux que je retire de la situation dans laquelle je me trouve? Parfois, nous n'avons qu'une seule prière, et c'est de lui dire, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Le Seigneur veut bien nous délivrer, mais pas avant que nous ayons pu retirer une leçon de la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Nous pouvons compter sur sa personne, nous pouvons compter sur sa présence, mais nous pouvons compter sur ses promesses. Et là, eh bien, le Seigneur en a profité pour faire des promesses formidables à ses disciples qui étaient là dans la crainte angoissée. Et il leur dit ceci, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Y a-t-il une espérance plus glorieuse que celle-là? J'ai entendu plusieurs frères et sœurs ce matin, eh bien, s'adresser au Seigneur, le remerciant pour l'espérance qui était la leur. Oui, la certitude qu'un jour nous serons avec lui. Mais je reviens quand même à ce texte. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça pose question. Et souvent, j'ai entendu des personnes venir vers moi pour me demander, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Écoutez. Je ne suis pas capable de répondre à toutes les questions, à toutes les interrogations. Seulement, je voudrais vous mettre en face d'une évidence qui était le partage de la culture de ceux qui vivaient à l'époque où le Seigneur Jésus était au milieu d'eux. Et j'aimerais simplement vous dire que à ce moment-là, par exemple, lorsque au sein d'une famille, un enfant se mariait, eh bien le papa ajoutait une aile à sa maison, et c'est dans cette aile-là, cette sorte de chambre ou d'édifice particulier qui était bâti, qu'allait demeurer le nouveau foyer. S'il y avait deux enfants, il ajoutait encore une aile. S'il y en avait trois, il ajoutait encore une aile. Et dans certains pays orientaux, eh bien, il existe encore cette pratique. Et si je ne me trompe, vous savez, on parle de riad dans certaines régions. Bien, ce sont ces maisons-là qui s'articulent aussi autour d'un patio, et toute la famille est rassemblée là, autour d'un même lieu qui peut être un lieu où il y a de la réjouissance à se retrouver sur le plan familial, alimentant les liens de la famille. Et moi, je trouve que cela est formidable. Des chrétiens m'ont dit parfois, je m'imagine le ciel, certains m'ont dit, comme une vaste salle, vous savez, un peu comme quand on est rassemblé à la réunion et où tous les chrétiens seront là. Je me suis dit intérieurement, si le ciel ressemble à cela, je ne veux pas aller au ciel. Il y en a d'autres qui ont dit, ah, moi je pense qu'il a préparé des demeures séparées les unes des autres, c'est comme des manoirs différents. Je ne veux pas aller au ciel comme ça. Je ne veux pas. Non, non, le Seigneur veut une véritable communion pour l'éternité autour de ce jardin merveilleux qui est le paradis. Et il dit, je vais vous préparer une place, c'est certain. Et j'ai réfléchi à cela. Dieu a fait le monde, je tiens compte de ce que dit la parole de Dieu, en 7 jours. Et en 7 jours, comme il est glorieux quand même notre monde, les hommes l'ont rendu laid et affreux. Peut-être vous pouvez imaginer autrement, la création, moi je ne fais que citer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je dis, en 7 jours, il a fait des choses qui sont merveilleuses. Et il y a des fois où je peux me trouver émerveillé devant certains paysages qui sont ceux que Dieu a faits. Eh bien, ça fait des siècles que le Seigneur est en train de nous préparer une demeure dans le ciel. Et pendant tout ce temps, vous vous rendez compte comment elle doit être merveilleuse? Et ça, c'est ce qui peut réjouir notre cœur. Si mon espérance, mes frères et sœurs, comme le dit un homme de la Bible, n'est que pour le temps présent, eh bien, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais notre espérance à nous, c'est de connaître la gloire. C'est d'être avec lui pendant toute l'éternité, dans une magnificence merveilleuse, quelque chose qui dépasse notre entendement, cette espérance-là, jamais personne ne pourra l'enlever de mon cœur. Je sais qu'il est allé me préparer une place et qu'un jour, je serai avec lui. Ses promesses sont certaines. Vous savez, il appelle cela la maison de son père. J'aimerais faire une comparaison. Il y a des fois où j'ai été invité dans des maisons qui sont vraiment formidables. Et je vous assure, j'ai souvent reçu un accueil fabuleux, un accueil merveilleux. Mais quand je suis en dehors de chez moi, je ne suis jamais aussi bien que lorsque je suis à la maison. La maison de mon père, lorsque j'étais un enfant, un adolescent ou un jeune homme, eh bien, c'est ce qu'il y avait de meilleur pour moi. Il a fallu un jour quitter la maison et je suis parti au loin, non pas par dépit, c'était sur le plan professionnel, Et je dois vous dire que lorsque je pensais au retour à la maison, il y avait toujours une grande joie dans mon cœur. Vous savez pourquoi ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on arrive dans la maison paternelle, je sais que vous en avez fait tous l'expérience, eh bien, on se sent tellement à l'aise, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève ses souliers, on enlève tout ce qui nous embarrasse, et puis on se met à l'aise, on va se jeter sur le canapé, on sait qu'on est dans la maison du Père, il n'y a plus de contraintes, on est bien. Évidemment, si je viens chez vous et que je fais cela, vous allez dire, Monsieur Ferry, s'il vous plaît. Mais à la maison, moi je fais ce que je veux. Dans la maison de mon Père, je serai à l'aise. Vous savez, dans ce lieu-là, il y a mon Père céleste. Il y a aussi ceux qui m'ont précédé et que j'aime. Il y a tous ceux qui ont partagé la même foi, la même espérance et qui m'ont devancé. C'est là le lieu de repos. Écoute mon frère, écoute ma sœur. Pour aussi belles que soient les expériences que tu peux faire ici-bas sur la terre, jamais, jamais tu ne connaîtras ici-bas autant de joie et autant de repos que ce qui t'attend dans la maison du Père. C'est la raison pour laquelle il faut fixer les yeux vers en haut et penser à ce que le Seigneur nous prépare là-haut. Et non seulement il a fait ses promesses merveilleuses en parlant de cette demeure qui se trouve dans la maison de son Père, mais il a ajouté quelque chose. À ce moment-là, il a dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Là, vous pouvez imaginer comment les disciples ont dû être encore une fois plongés dans l'incompréhension. Pour eux, le chemin jusqu'à la mort, c'était clair. Et peut-être intérieurement, ils se disaient, la mort, c'est le moyen par lequel on va aller au Père. Mais à partir de la mort jusqu'au Père, nous ne connaissons pas le chemin, nous ne connaissons pas la voie, nous ne connaissons pas ce qui va se passer, nous ne savons pas ce qui va se produire. Regardez comment le Seigneur répond. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je m'arrête ici un instant pour, au travers de quelques exemples, vous aider à comprendre ce que cela peut signifier pour vous. Vous savez, j'ai fait cette expérience particulière depuis les quelques jours que je suis avec vous, parce que me trouvant dans la ville de Marseille, vous savez, pour un petit bonhomme qui vient d'un petit village bien tranquille, Marseille, ça représente quelque chose qui est un peu difficile à accepter. Et comment trouver ce que l'on cherche ? Je me suis trouvé à un moment donné à me poser la question, alors que j'avais besoin de trouver un bureau de poste, je me suis dit, je vais m'engager, quelqu'un bien va me donner un renseignement. Alors, j'en ai trouvé un qui m'a dit, « Oh, monsieur, c'est facile, vous descendez là, vous tournez à droite, vous allez à gauche, vous retournez ici. » J'ai rien compris. Et j'ai pas trouvé ce qu'il me disait. Alors, je suis allé un peu plus loin, puis je suis arrivé juste à un feu de croisement où un jeune cycliste était là en attendant que le feu passe au vert, et j'ai descendu la vitre de ma portière de voiture et je lui ai demandé, est-ce que vous connaîtriez un bureau de poste ? Il a dit, oui monsieur, c'est facile, écoutez, suivez-moi. Et là alors, ça a été beaucoup plus facile pour moi. Je l'ai suivi, alors comme il y avait un chemin qui descendait assez rapidement, il allait à une vitesse incroyable, j'avais peur même pour lui, et puis à un moment donné, il est arrivé à un endroit, il a dit, c'est là. Et moi, je n'ai eu qu'à le remercier. Il a été pour moi le chemin. Vous comprenez ? Il a été pour moi le chemin. Une autre expérience. Lorsque, dans un voyage au Canada, j'ai posé la question à quelqu'un perdu dans la ville de Montréal, est-ce que je peux savoir où se trouve tel endroit? Il m'a dit, monsieur, c'est facile. Écoutez, vous comptez 3 lumières et vous allez arriver à ce que vous cherchez. Pour eux, les lumières, c'est les feux tricolores. Et vous savez ce que j'ai compté, moi? Les lampadaires. Alors, au bout de 3 lampadaires, je me suis dit, mais il est fou, celui-là. Il n'y a pas de chemin à droite, là. Et on m'a appris par la suite, mais non, mais c'est les feux tricolores. Alors là, j'ai compris. Vous voyez? Jésus, lui, est clair. Et j'aimerais quand même, ici, redevenir sérieux. C'est formidable, vous savez, de savoir qu'il va venir nous chercher. Vous allez dire, oui, mais ça, c'est quand à son retour. Écoutez, mes frères et sœurs, pour moi, il y a une ferme conviction dans mon cœur. Quand je fermerai les yeux définitivement ici-bas sur la terre, Jésus sera là pour me conduire au Père. C'est la raison pour laquelle David, dans ce merveilleux psaume que vous connaissez, dit qu'il va habiter dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Et il ne craint pas, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, car tu es avec moi. J'ai eu l'occasion de faire une expérience formidable un jour avec quelqu'un pour lequel, avec mon frère d'ailleurs, nous étions en train de prier, car il arrivait à la dernière étape de sa vie. Il venait à peine quelques jours au préalable de donner son cœur et sa vie au Seigneur, et nous l'avons accompagné pendant les derniers instants de sa vie. Et au moment où nous étions en train de prier pour lui, cet homme, avec le peu de force qui lui restait, s'est assis sur son lit. Et il a dit, arrêtez, Jésus est là, je le vois, Jésus, prends-moi. Et il s'est endormi et il est parti avec le Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, Jésus fait cette promesse, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma sœur, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Suivre le chemin qu'il nous a indiqué. Il a dit lui-même, je veux que là où je suis, eux aussi y soient. Attention, Jésus désire que nous le suivions sur la terre. Le chemin qu'il a suivi est un chemin particulièrement difficile. Il a marché dans la haine, il a marché dans l'incompréhension, il a marché plutôt face à ces choses-là. Il a marché face à la contradiction des hommes. Il a connu tout cela. Mais il est allé au bout du chemin en s'appuyant sur le Seigneur. Et il nous dit, au travers de cette parole, qu'il désire que nous soyons là où il est. Nous pouvons être dans l'humiliation pour ensuite être dans la gloire. Parce que ça, c'est une chose certaine. La Bible dit que si nous souffrons avec lui, eh bien, nous triompherons et nous régnerons aussi avec lui. Ça, c'est l'espérance que possèdent tous les chrétiens. Et un jour, quelqu'un qui est proche de moi, puisque c'est le papa de mon épouse, m'a dit, Samuel, as-tu remarqué que c'est la seule fois où Jésus a dit, je veux. Quand il s'est adressé à son père, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais quand il a fait cette dernière prière, que l'on appelle la prière sacerdotale, il a dit, Père, je veux que là où je suis, eh bien, ce que tu m'as donné, y soit aussi. Alors quand je sais que le Seigneur est toujours exaucé, parce que lorsqu'il s'est trouvé devant le tombeau de Lazare, il a dit, Père, je te loue, parce que je sais que pour moi, tu m'exauces toujours, je n'ai aucune crainte à avoir. Quel repos, n'est-ce pas, de savoir qu'il va accomplir tout ce qu'il a dit. Ainsi, je termine en vous disant ceci. je connais aucune autre consolation plus grande que celle qui consiste à croire que je peux compter sur sa présence dans les moments difficiles, sur ses promesses et sur sa personne. Que Dieu vous aide à comprendre, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen. Seigneur, nous savons en effet que tu n'abandonnes jamais aucun des tiens. Nous te louons pour la fidélité avec laquelle tu nous as traités jusqu'à ce jour. Et nous savons que ta parole, elle trouvera un accomplissement total dans nos vies. C'est la raison pour laquelle, oui, je te demande ce matin, visite ton peuple, visite mes frères et sœurs qui peuvent être dans le découragement, qui peuvent être abattus, qui connaissent un moment difficile. Seigneur, je te prie que ta présence leur soit sensible d'une manière particulière. Nous avons invoqué ton nom avant cette réunion pour ceux qui sont isolés et dans la souffrance. Alors je te demande, ô Père éternel, que ta parole trouve son accomplissement en eux et qu'ils puissent sentir ta présence d'une manière tellement évidente qu'ils éclatent en louanges et en adoration, parce que tu es digne de recevoir cela. Oh, fixe notre attention sur les paroles que tu as prononcées et aide-nous à nous centrer sur tout ce que tu as dit, parce que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. À toi la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen.